D'abord, à savoir que typiquement, les sociétés des services, ils ne sont pas, ils ne dépendent pas d'investissement. Leur fonctionnement normal, c'est de ne faire pas des produits ou des investissements. Leur fonctionnement normal, c'est de vendre la journée de travail. Typiquement, c'est les talents, c'est la journée de travail. Pour certains types de professions, etc., ça peut être l'heure, mais bon, typiquement, c'est la journée de travail. Et même dans des conglomérats ou de groupes qui font, je ne sais pas, dans les autres, c'est 90 000, mais il y en a des plus importants aussi, notamment les Américains du type Accenture. Ces types de fonctionnement et les technologies de base sur la journée de travail, ça vaut autant pour l'informaticien bien de base, pour dire celui qui écoute le monde, en absolu, jusqu'au PP, comme on dit, c'est précisément consultant. C'est toujours la journée de travail qu'on vend, sur des formes qui sont plus ou moins. Dont les deux plus importants sont la régie. Et le projet porté, la régie, c'est qu'on vend des journées, c'est-à-dire on prête quelqu'un pour une journée, pour 10 journées, pour 50 journées, etc., pour travailler. La personne est mise à disposition, il n'y a pas de, comme une garantie de résultat sur ce qu'il fait, c'est les clients qui l'utilisent comme selon ses compétences.
Il n'y a pas d'obligation
de résultat. Tandis que dans notre matière qui est projet à forfait, il y a une obligation de résultat, donc on ne vend pas des personnes, on vend un résultat donné qui est réalisé, il y a des personnes, mais derrière, tout est comptabilisé sur le courant. Ce que je disais là, c'est que, disons, avec progressivement, avec l'arrivée des PC, etc., avant, effectivement, moi, quand j'ai commencé à travailler, quand même, les années 70, il y avait une partie des capital fixes, c'était très important. J'avais monté ma première activité d'entreprise et le passage capital pour lancer l'entreprise, c'était acheté à l'époque, il n'y avait pas de micro ordinateur, terminé ordinateur avec un endettement sur 10 ans. Et c'est ça qui nous permettait derrière après d'embaucher, de faire travailler les gens, etc. Aujourd'hui, avec le PC, progressivement, il n'y a pas d'autres capital fixes en termes de. L'outil de travail, parce que c'est un PC, vous savez combien ça coûte pas du mal rien, ça coûte grosso modo une ou deux journées de travail d'un consultant. Voilà. Donc c'est zéro. Ça, c'est d'un certain point de vue. Donc, le fait que tout est basé sur la vente de journées hommes, ça veut dire que de vrai bien. Tout est centré à un certain moment autour de ce qu'on a appelé à un certain moment. Je pense que l'origine, ça peut être, ça vient des États-Unis, les ressources humaines, gestion des ressources humaines. Donc l'homme devient la ressource principale et est la ressource humaine principale dans ces cas-là. Donc, ce que je cherchais à mettre en évidence et à accéder un petit peu au discours, moi dans les 10 ans que j'ai pris avant, c'est que j'étais dans la petite communauté, c'était très différent même, mais dans les 11 ans, parce que tout maintenant que je fais dans la très grande entreprise informatique, c'est là qu'à mon avis, il y a eu le plus grand bouleversement. Et ça, je l'entends pas seulement de moi, ou d'un fait, mais aussi d'arriver de ce mode à l'intérieur. Donc, je vais commencer sur un peu d'introduction de l'intervention. Ça se base un peu sur l'évaluation à l'intérieur de. Des entreprises comme les sociétés de services informatiques. Donc, je disais que même les managers qui sont là, qui ont passé récemment toute sa carrière là, et qui sont aujourd'hui des seniors, il y en a beaucoup qui, à un certain moment, qui ont parlé de qui parlent avec nous, etc., ils disent oui, il y a eu un moment, un basculement. Et entre comment la gestion des ressources humaines et aussi le fonctionnement de l'entreprise, quelque part, mais là, on axe plutôt sur la partie de gestion des ressources humaines, était faite, et comment c'est aujourd'hui. Alors, moi, ce que je peux dire, quand je suis arrivé, effectivement, en plus, j'étais dans une position de directeur de projet, de manager, donc, à un moment, effectivement, j'avais plus approchés, avec jusqu'à, je ne sais pas, 50, 60 ingénieurs. Donc, une des tâches que je devais accomplir à cette époque-là, c'était entre autres de faire ces entretiens à l'époque, ça s'appelait l'entretien carrière, et éventuellement aussi les entretiens accessoirement, beaucoup moins, comme les entretiens des évaluations de comportement de salariés sur le projet. Et donc, ce que je peux témoigner de cette époque-là, c'était d'abord que c'était très artisanal, c'est-à-dire, oui, il y avait un cadre qui était donné, c'était déjà un cadre international, en 98, comme ça, donc je parle une douzaine d'années, il y avait un cadre, grosso modo, dans lequel on avait un échange dans la traitement carrière qui était axé sur les compétences, les comportements, les axes de développement, comment les collaborateurs allaient évoluer, la formation, voilà. Ça c'était grosso modo comment les choses étaient structurées. Mais bon, je dois dire que c'était une facilité, il y avait 3-4, on discutait de ces 3-4, je m'en fais des choses, qui après étaient archivées, je n'ai pas saisi sur un ordinateur ou autre. Hein. Et il y avait déjà à cette époque aussi une évaluation à la fin d'un entretien qui était à la fois américaine, à la BCD, des choses comme ça. Hein. Et la partie discussion, les annotations, etc. Donc c'était, somme toute, quelque chose d'assez artisanal. Hein. Par rapport à ce qui va devenir après, il faut dire aussi que surtout entre 98 et 2000, un peu pour l'histoire du bac de l'année 2000, en deuxième lieu aussi parce que moi je travaille dans une business qui était les télécoms, donc avec l'arrivée de la téléphonie mobile, on avait beaucoup de demandes de projets, donc le travail ne manquait pas. Même le problème c'était d'emprunter le plus possible, entre guillemets. Quelque part, les salariés, ils étaient aussi dans un rapport de force que je trouvais plutôt favorable à eux. Je me rappelle que ça permettait certains types de choses, par exemple, de refuser d'aller dans des projets rémunérés, notamment à l'étranger, où il y avait comme prime de fabrication plus que le salaire. On doublait les salaires juste avec le C'était ça les rapports, grosso modo, entre la demande, au moins la demande pendant cette période. En deuxième lieu, je ne sais pas si là il a voulu jusqu'à la fin du système. Oui, la première crise de la fin d'internet. En deuxième lieu, accompagné à ça, donc ça c'est plutôt sur la partie évaluation, etc. Accompagné à ça, il y avait aussi des faits, très souvent dans les. Moi je dirigeais même moi par. De piloter plusieurs projets à la fois, mais je n'étais certain que j'étais moi-même le chef de projet. Et ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait quand même un niveau de coopération qu'on pouvait. Moi, certes, ça dépend aussi du chef de projet, mais qu'on pouvait quelque part mettre en route. Hein, à l'intérieur des projets, c'est vrai que c'était un climat positif et ils sentaient bien qu'on est en train de gagner des projets importants, tout le monde y gagnait parce que l'on savait remonter aussi, etc. Donc ça faisait un contexte positif et c'est vrai qu'il y avait aussi une forte cohésion des équipes. On a aidé à créer cette cohésion des équipes, ce travail. Je m'en atteins de choses que peut-être aujourd'hui n'existeraient pas pour un projet que. D'ailleurs, c'est le premier projet que j'ai fait quand je suis arrivé aux États-Unis. On m'a envoyé aux États-Unis France, Télécom France, elle avait gagné un projet en Italie, en Mali, plus en Milan. Donc, on m'a dit, toi, tu viens d'arriver, tu es déjà un senior, tu es évidemment un senior, tu vas faire le chef de projet sur ce projet-là, t'es italien, pas de mieux. Et j'avais une équipe mixte française et italienne. Et je me rappelle très bien, que 25, Que, par exemple, il y avait une fille qui est venue d'études en Italie ou des choses comme ça, que de ce que j'ai compris ou que j'ai compris plus tard, elle savait presque rien faire par rapport au projet, et tous les autres ont tout vrai. C'est-à-dire que, grosso modo, ben, je comprenais, mais grosso modo, on lui donnait des choses très simples à faire, et ça n'arrivait pas à tout le monde aider, donc il y avait un climat comme quoi. Moi, je n'étais pas un chef méchant, hein. Mais on avait un terrain méchant. Mais je comprenais bien qu'il y avait ce type de comportement. Donc, je ne sais pas si je vous dis ça, ce serait facile ou possible, etc. Après, effectivement, avec la crise de la ville Internet, comme nous, on était un peu du secteur business unit, d'innovation, parce que travailler entre territoire informatique, etc. Évidemment, on a pris le plein coup et l'Internet, donc on a eu une première crise. Et à partir de là, à fur et à mesure, disons, il y a eu des changements. Le changement qui d'abord a été en apparence dicté par le fait qu'il y avait moins de travail, moins de projets, plus difficile à gagner, moins de marge, etc. Bon, donc déjà, on entre dans une période plus difficile, et aussi du fait, mais c'est là qu'il commence aussi en France, mais d'abord dans les pays anglo-saxons, mais après la crise Internet, jamais ont été retrouvés les niveaux de demande de production qui existaient avant.
Si, mais tu fais pas.
Alors, moi, je dirais que il faut savoir une chose au plus vite. En travaillant dans les télécoms, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, la téléphonie mobile, ça a été une explosion. Grosso modo, en 5-6 ans, chaque pays, il y avait plusieurs opérateurs qui s'étreignent. J'ai fait des projets pas que en Italie ou en Tunisie, en Tchécoslovaquie, en Belgique, etc. Il n'y avait pas assez de compétences informatiques. L'opérateur de téléphonie, à part le fait d'avoir un réseau physique, pour avoir les HLR, c'est-à-dire les émetteurs, les récepteurs qui sont placés, etc., le reste, c'est l'informatique pour faire la facturation, pour faire
même les données, etc. C'est
même la réseau, il y a quelque chose de physique à poser,
mais
c'est pas.
Mais
le reste, c'est l'informatique. Vous pouvez imaginer des parlements de tous les pays industrialisés au moins, même les pays émergents, mais bon, ça vient plus tard, un peu plus tard. Il y avait plusieurs opérateurs qui voulaient se mettre sur le marché, pour se mettre sur le marché, je ne sais pas, c'était des projets, c'était une milliers de jours, de 10 000 jours, de 20 000 jours. Donc, vous voyez, la qualité du travail, quand vous pensez que 20 000 jours, 10 000 jours, c'est 500, je dis moyenne comme ça, à l'époque c'était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui, mais c'était 500, 600 euros par personne, vous voyez, un peu, j'étais un peu. Hein. Donc, effectivement, pour les télécoms, une exclusion de ce qui passe, c'est par le TV. Exactement. Après, effectivement, la demande a repris, mais comme je disais après, sur d'autres formes. Mais disons que cette mutation, cette crise, il a mis la distribution des balles passantes très très importantes en général, hein, parce que vous avez la technologie mobile et Internet en même temps. Donc, quelque part, ça a aidé, ça a permis d'avoir une infrastructure technologique pour avoir aussi des premiers déploiements. Les premières délocalisations, si vous l'appelez comme ça, c'est qu'on appelle après dans les termes du métier de l'offshore, surtout sur l'Inde, parce que l'Inde, c'était le pays qui s'est traité le mieux par son infrastructure universitaire, et probablement aussi pour des raisons culturelles, etc. Il y avait déjà, une population d'ingénieurs, et donc plus la base passante était désormais disponible, donc là ça commence un autre phénomène qui part en parallèle, qui est celui de l'offshore, c'est-à-dire de la délocalisation d'une partie du travail de développement, du travail d'ingénieur informaticien en Inde. Mais tout ça, ça se mélange dans un contexte, mais à fur et à mesure, ce qui émerge après, même à la sortie de la crise de la ville, et beaucoup plus fortement, bien sûr, depuis 2008, c'est que je crois que c'est peut-être le phénomène d'offshore qui le met en évidence, c'est le fait que l'entreprise, il n'y a plus de projet industriel, au moins pour ce qui regarde les collaborateurs qui sont en France. Alors, les collaborateurs en France, c'est quelque chose que je crois que j'ai évoqué déjà précédemment. Il y avait quelque part, même dans les moments d'économie, je sais que j'avais vécu auparavant, l'effet qu'il y avait un principe un peu sous-entendu dans la gestion des ressources humaines. Ok, à la limite, on laisse partir des gens. À la limite, je crois que même avant que j'arrive, il y avait eu une autre crise, on avait fait un plan social. Mais on garde quand même les bons, à finir. Et surtout la fois des détectives, etc. Avec l'offshore, tout ça, ça tombe. Quelque part, il n'y a plus, ce type de règles n'existait plus. C'est pas dit que quelqu'un qui est brillant, on l'introduise dans l'année des mois. Surtout ceux qui ont ressent très fortement et qui s'articulent après, on va voir, moi je vais surtout regarder sur la partie évaluation, des marches, etc. C'est que on sent bien, et même les managers, les seniors managers, on sent bien que l'entreprise n'est plus pilotée avec un projet industriel, je ne sais pas, de gagner des parts de marché en faisant des choses un peu innovantes ou en prenant sa petite démarche, etc. L'entreprise est seulement orientée à une rentabilité financière. Mais progressivement, de plus en plus orientée à la rentabilité financière, qui doit être réalisée entre autres avec le choix, etc. Donc, c'est là. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, donc sur la partie évaluation des RH, etc., et comment ça va mettre en place quelque chose des outils, des instruments de gestion de ressources humaines, ça c'est très important, je pense aussi, qui sont des instruments informatiques, déjà, moi je l'ai réplié. Parce que maintenant, je ne fais plus de carrière, je ne suis plus manager, etc. Et après non plus, mais nous les avons parce que nous-mêmes, nous ne pensons pas jouer. Hein, et en plus, il y a plein de gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui viennent nous voir qui sont en difficulté, etc. Donc, je vais regarder à nouveau toute la documentation interne et il y a un petit postcul qui s'appelle The Way We Work, de la façon dans laquelle nous travaillons, et qui regarde que une des trois grandes professions de l'entreprise, qui est la profession qui s'appelle technologie, donc les gens qui pensent à l'entreprise, les ingénieurs pour simplifier, et sur laquelle c'est vraiment étonnant parce que maintenant il y a une matrice de une dizaine de métiers différents. Car avant, il y en avait probablement deux ou trois. Que sur chaque métier, il y a des grades qui vont d'AS et qui vont du junior jusqu'à plus compétent, plus confirmé. Et que sur chacun de ces grades, et sur chacun donc de combinaisons déjà de cette matrice, il y a en moyenne 20 ou 30 ou 40 compétences. Donc une ligne de compétences. Hein. Donc ça fait quelque chose d'extrêmement vaste, extrêmement parcellisé, complexe, atomisé, etc. Et pour chacune de ces compétences, aujourd'hui, dans les entretiens de carrière ou les entretiens qu'on appelle performance projet, donc performance, hein, je souligne, tout ça, chaque ligne de chaque compétence est évaluée. Donc ça fait énoté. Donc ça fait quelque chose. Premièrement, deuxièmement, c'est un outil informatique, donc tout ça reste dans une base de données, donc ce n'est plus des feuilles de papier que je faisais il y a 10 ans, qui sont finies dans un archive de compte. Dans une base de données qui est donc, on n'oublie jamais, Ce n'est pas un hasard, c'est un avis d'autre, quelque chose qui est ancré à découvert. Si on te donne une note qui est mauvaise, et après. Et après, effectivement, passe à une rémontrance, etc., et disant, mais effectivement, non, je ne peux pas changer parce que l'outil ne permet pas de changer de